Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié pour la première fois en 2005 et réédité notamment par Renaissance du livre, Une adolescence perdue dans la nuit des camps et le témoignage autobiographique d'Henri Kitschka, survivant belge de la Shoah. Né à Bruxelles dans une famille juive d'origine polonaise, Kitschka est déporté en 1942 à 16 ans avec ses parents et ses deux sœurs. Le récit retrace l'anéantissement progressif de son univers familial, son passage par Auschwitz puis par d'autres camps, dont Gross-Rosen et Buchenwald, ainsi que le retour difficile à la vie après la libération. Seul membre de sa famille à survivre à la déportation, l'auteur ne cherche pas à transformer son expérience en fiction ni à proposer une histoire générale de la guerre. Il restitue le point de vue concret d'un adolescent confronté à la persécution, au travail forcé, à la faim et à la disparition des siens. Préfacé par Serge Klarsfeld dans son édition initiale, le livre répond aussi à une mission de transmission rendre intelligible par une voix individuelle, ce que la politique nazie d'extermination a fait aux Juifs de Belgique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une dépossession de l'adolescence plutôt qu'un simple récit de guerre. Le titre désigne avec précision l'enjeu du livre. Henri Kitschka ne présente pas la déportation comme une épreuve temporaire survenue pendant sa jeunesse, mais comme la destruction même de cette période de la vie. À 16 ans, l'âge où devrait se construire l'autonomie, les liens sociaux et les projets, il est arraché à sa famille et placé dans un système conçu pour déshumaniser et tuer. Cette perspective adolescente distingue le témoignage d'une chronique militaire ou institutionnelle. Le lecteur ne découvre pas seulement des camps. Il mesure ce que signifie être privé de tout cadre protecteur au moment où l'identité personnelle est encore en formation. Le mot « perdu » ne renvoie donc pas à une nostalgie abstraite. Il décrit une rupture durable entre l'existence qui aurait pu se poursuivre à Bruxelles et une survie soumise à la violence nazie. L'intérêt du récit tient à cette échelle humaine, la persécution antisémite apparaît dans ses conséquences sur une famille et sur un jeune homme, non comme une donnée impersonnelle de l'histoire. Le livre permet ainsi de comprendre que la Shoah ne se limite pas aux meurtres de masse, elle détruit aussi des trajectoires, des apprentissages et des générations entières. Cette focalisation rend le témoignage particulièrement pertinent pour aborder l'histoire avec des lecteurs jeunes, sans atténuer la gravité des faits. Deuxièmement, le parcours concentrationnaire révèle la logique d'un système de persécution. Kitschka rapporte un itinéraire qui passe notamment par Auschwitz, Gross-Rosen et Buchenwald, au sein d'un parcours comprenant de nombreux lieux d'internement et de transit. Cette pluralité est essentielle, elle empêche de réduire l'univers concentrationnaire à un seul camp, même si Auschwitz en demeure le symbole central. Le récit fait comprendre que la déportation était un processus mobile et organisé fait de transport, de séparation, de sélection, de travail forcé, d'épuisement et de transferts successifs. Les camps ne sont pas présentés comme des espaces isolés. Ils appartiennent à un dispositif de domination dont les effets s'accumulent sur les corps et les esprits. La succession des lieux accroît l'incertitude, aucun attachement stable, aucune sécurité, aucune visibilité sur l'avenir ne sont possibles. Dans ce contexte, survivre ne relève pas d'une héroïsation rétrospective. Le témoignage rappelle implicitement la place du hasard, de l'état physique, des décisions arbitraires et des circonstances dans les chances de rester en vie. Cette prudence est importante sur le plan historique et moral, elle évite d'interpréter la survie comme un mérite qui distinguerait les rescapés des victimes. En suivant un adolescent belge à travers cette géographie de la déportation, le livre donne un contenu concret à l'expression « système concentrationnaire » et montre l'articulation entre persécution des juifs, exploitation et extermination. Troisièmement, la disparition de la famille place le deuil au cœur du témoignage. La déportation d'Henri Kitschka est inséparable de celle de ses parents et de ses deux sœurs. Il sera le seul survivant de sa famille. Ce fait structure profondément la portée du livre. Raconter son propre retour ne peut jamais être dissocié de l'absence définitive des autres. Le témoignage ne se réduit donc pas à l'itinéraire d'un individu ayant échappé à la mort. Il devient également une manière de redonner une place à ceux qui n'ont pas pu parler. Cette dimension modifie la lecture de la libération. Celle-ci ne constitue pas un dénouement heureux au sens ordinaire, elle ouvre une période où il faut vivre avec une solitude radicale et avec la connaissance de pertes irréparables. Le lecteur est ainsi conduit à distinguer deux réalités souvent confondues, la fin de la captivité et la fin du traumatisme. La première peut être datée, la seconde ne l'est pas. En insistant sur le destin familial, le livre rappelle aussi que la politique antisémite nazie visait les personnes dans leurs liens les plus élémentaires. Déporter une famille, la séparer et l'anéantir, c'était détruire simultanément une histoire familiale, une transmission culturelle et un avenir commun. Kitschka donne à cette réalité collective une expression sobre, fondée sur son expérience directe. C'est ce qui confère au texte une force de mémoire, les disparus ne sont pas des chiffres, mais les membres absents d'un monde familial dont le narrateur porte seul le souvenir. Quatrièmement, le retour en Belgique montre que la survie ne rétablit pas une vie normale. L'après-guerre occupe une fonction décisive dans la compréhension du témoignage. Après sa libération, Henri Kishka revient en Belgique dans un état de très grande faiblesse et doit notamment faire face à la maladie. Les informations biographiques disponibles indiquent qu'il a été soigné pour la tuberculose et hospitalisé longtemps. Ces éléments éclairent une vérité centrale du livre, le retour ne signifie ni récupération immédiate du corps, ni réintégration simple dans la société. Il faut retrouver un pays, des repères et des possibilités d'existence alors que la famille a disparu. La situation de Kishka souligne également une difficulté spécifique aux survivants adolescents. Ils reviennent à un âge où ils devraient être accompagnés par des parents et entrer progressivement dans la vie adulte, mais doivent reconstruire sans ce soutien. Le témoignage invite donc à penser la libération comme le commencement d'une autre épreuve, moins visible que la déportation mais durable. Cette attention au lendemain des camps évite une vision simplifiée de l'histoire, centrée exclusivement sur l'arrestation et la libération. Elle met en lumière les séquelles physiques, le deuil et le problème du retour parmi ceux qui n'ont pas vécu la même expérience. Pour le lecteur, cette partie donne une portée concrète à la notion de traumatisme historique, ses effets se prolongent dans les institutions de soins, les relations humaines et la capacité même à se projeter dans une existence ordinaire. En dernier lieu, écrire et témoigner tardivement une œuvre de transmission contre l'effacement, Henri Kishka a commencé à témoigner largement, notamment devant des publics scolaires. À partir des années 1980, avant de publier cette autobiographie en 2005. Ce décalage temporel est significatif. Le livre n'est pas un journal écrit au fil des événements, c'est une parole élaborée après des décennies de silence relatif, de reconstruction familiale et de confrontation à la mémoire. Cette situation donne au texte une double valeur. Il est d'abord le récit d'un rescapé fondé sur une expérience vécue. Il est aussi un acte volontaire de transmission destiné à empêcher que la disparition des témoins directs n'entraîne l'effacement des faits et des victimes. La présence d'une préface de Serge Klaasrefelt dans l'édition initiale inscrit en outre l'ouvrage dans un travail plus large de documentation et de mémoire de la déportation des Juifs de France et de Belgique. Kishka ne prétend pas remplacer l'histoire savante de son apport et de rendre celle-ci sensible par la précision d'une trajectoire personnelle. Pour l'éducation à la Shoah, cette complémentarité est fondamentale. Les archives établissent les mécanismes, les dates et les responsabilités. Le témoignage expose ce que ces mécanismes ont produit dans une vie. Le livre a ainsi une fonction civique autant que mémorielle. Il sollicite une lecture attentive, capable de relier l'émotion à la connaissance et de reconnaître que transmettre ne consiste pas seulement à commémorer, mais à résister aux simplifications, au relativisme et à l'oubli. En conclusion, une adolescence perdue dans la nuit des camps s'adresse en priorité au lecteur qui souhaite approcher la Shoah à travers une parole de survivant, notamment aux lycéens, aux étudiants, aux enseignants et à toute personne désireuse de compléter les ouvrages historiques par un témoignage personnel. Sa lecture ne fournit pas de méthode pratique au sens habituel, elle offre plutôt des outils intellectuels et civiques situés la persécution dans une vie concrète. Distinguer la survie de la réparation et comprendre pourquoi la mémoire des victimes exige précision et responsabilité. Le texte peut accompagner utilement l'étude de la déportation des Juifs de Belgique, de l'univers concentrationnaire et des difficultés du retour après 1945. Ce qui le distingue parmi les récits de rescapés est d'abord son point de départ, celui d'un adolescent belge déporté avec toute sa famille et devenu son unique survivant. Cette position fait du livre à la fois un récit de captivité et un livre sur la rupture d'une filiation. Son titre ne cherche pas à universaliser abstraitement la souffrance. Il nomme une perte déterminée, celle d'une jeunesse confisquée. L'ouvrage se démarque aussi par son lien direct avec la transmission publique. Kishka a consacré une partie importante de sa vie à témoigner auprès des jeunes. Sans se substituer aux synthèses historiques, son autobiographie leur apporte une densité humaine irremplaçable. C'est un livre à lire avec attention, éventuellement accompagné d'un cadre historique, parce qu'il transforme des réalités souvent connues sous forme de dates ou de chiffres en expériences vécues, tout en rappelant que cette expérience ne peut jamais être totalement réparée. Si vous souhaitez soutenir Henri Kishka, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.